Bonjour et bienvenue. Vous écoutez la première édition de Litteramour, le podcast de littérature franco-allemande, en compagnie de
Sigrid Brinkmann
et de Clarisse Cosset. Nous sommes deux journalistes qui vivent à Berlin et nous travaillons depuis des années pour la radio publique allemande. Nous avons décidé de ne plus attendre que la traduction des livres paraisse pour en parler et pour interviewer leurs auteurs et leurs autrices en français
et en allemand. Vous avez ainsi à votre disposition une version française et une version allemande de notre podcast. Chacune dure environ 30 minutes et sera publiée le 15 de chaque mois. L'écrivain qui inaugure notre podcast est Camille de Toledo, dont le livre « Thésée sa vie nouvelle » nous a tout simplement bouleversés. C'est le caractère intime et urgent de la narration, porté par une langue admirable, qui nous touche.
Thésée, sa vie nouvelle, raconte une quête de sens, une enquête que mène Thésée, éprouvée par le suicide de son frère Jérôme, la mort subite de sa mère, la disparition de son père et l'effondrement progressif de son corps.
Il décide de quitter la ville de l'Ouest, dans laquelle il est facile de reconnaître Paris, pour laisser le passé derrière lui et se réinventer dans un environnement culturel et linguistique étranger. Il s'exile avec ses trois enfants et trois cartons chargés de souvenirs et d'archives de ses proches disparus. Thésée part pour la ville de l'Est, dans laquelle on reconnaît facilement Berlin.
Allô ?
Bonjour.
Bonjour, c'est nous.
C'est Sigrid et Clarisse.
Ah oui, ça marche. Il fallait tourner le bouton.
C'est à Berlin que vit également Camille de Toledo. Il nous a reçus fort gentiment par un matin frisquet de novembre pour nous parler de Thésée, sa vie nouvelle.
Bonjour.
Attendez, on ne sait plus.
Pardon.
Camille de Toledo lit le début de son roman Thésée, sa vie nouvelle.
Toi, mon frère, dis-moi. Qui commet le meurtre d'un homme qui se tue ? Tu es né le 26 janvier 1973. Quelques mois après ta naissance, ce fut le premier choc pétrolier qui annonçait la fin d'un monde, de l'énergie infinie. Après plus de 30 ans d'une crise du capitalisme, tu as rendu ta vie, et je suis depuis ce jour ton survivant, celui qui porte sur son dos l'énigme de ta mort. Une énigme qui traverse les âges et les frontières, une perte et un manque auxquels se nouent d'autres histoires venues du passé, qui laissent apparaître un fil fragile. Et lorsque je le tire, ce fil, voilà ce qu'il révèle.
Ainsi commence le roman Thésée, sa vie nouvelle. Nous avons voulu savoir comment Camille de Toledo on est venu à la question centrale du livre. Qui commet le meurtre d'un homme qui se tue ?
Qui commet le meurtre d'un homme qui se tue est une question à laquelle j'ai mis du temps à arriver. Vous savez, j'ai travaillé justement à reprendre des archives, à essayer de comprendre ce qui a eu lieu. Et évidemment, nous autres écrivains, je crois que nous partons toujours d'un matériau qui est biographique. Et sans doute qu'effectivement, le livre, c'est une adresse d'abord à une mort, c'est une adresse à un frère, c'est une adresse à un frère aîné. Mais évidemment, l'opération de la littérature et l'opération de l'écriture, c'est d'ouvrir cette adresse pour qu'elle s'adresse à plus que soi, à plus que nous au sens d'un nous familial, et que ça devienne un nous presque, j'allais dire, oui, universel ou générique. Et donc, j'ai mis du temps à y arriver. Pourquoi ? C'est une question qui cherche à comprendre la pulsion de mort et ce qui traverse les générations. Qui commet le meurtre d'un homme qui se tue ? C'est une question qui nous sort d'emblée d'une compréhension du suicide, qui serait un suicide libre, acte libre. Mais c'est aussi une question qui nous sort d'une vision du suicide qui serait, vous savez, c'est la faute à la société, la société a causé le suicide. C'est une question qui d'emblée pose la question des temps longs. Le temps long de l'histoire et comment l'histoire et ses traumas et ses chocs, de génération en génération, peut conduire, bien des années après, à des actes de mort. D'ailleurs, en allemand, c'est un mot que je trouve plus juste. Je crois qu'on dit parfois Selbstmord. Et je trouve que le mot français, et j'étais gêné d'ailleurs avec ça, c'est que ce mot suicide est chargé d'un romantisme un peu à la Werther. Vous savez, les souffrances du jeune Werther, c'est quelque chose de trop romantique, le suicide. Selbstmord est quelque chose qui est porter la main sur soi, écrit Jean Améry. Et donc, oui, c'est d'abord une enquête sur ce qui nous tue à travers le temps, Thésée. Thésée, sa vie nouvelle, c'est un travail qui se fait d'ailleurs, je le disais il n'y a pas longtemps, dans la trace d'un écrivain allemand qui s'appelle Sebald, qui a toujours enquêté aussi sur ce qui tue dans l'histoire, ce qui tue dans le temps.
Nous avons demandé à Camille de Toledo de nous parler de la genèse de son roman.
Je cherche à chaque fois, je crois, hein, mais c'est une question aussi que je pense que beaucoup d'autres écrivaines et écrivains se posent, c'est quand on entre dans une histoire, on cherche d'où ça écrit. D'où ça écrit et vers qui, en fait. C'est toujours la question d'un livre. D'où ça écrit et vers qui. C'est le lieu de l'énonciation et l'adresse. Le lieu de l'énonciation, l'adresse. Tous les livres, en fait. Et ça rejoint, en fait, une chose simple qui est la lettre. Lorsqu'on écrit à quelqu'un, c'est qui et vers qui et depuis quel endroit. Et comme il y a de la fiction, comme nous sommes écrivains, nous ne sommes pas simplement à écrire des lettres, ni à nos parents, ni à nos morts, ni à nos frères. Ce n'est pas seulement ça, le travail de l'écriture. Bon, la lettre au père de Kafka, pourtant, nous montre que c'est une lettre universelle, mais par l'écriture, on s'entrelace et parfois on se déplace. Et au temps de Vie potentielle, la vie, ma vie était un peu en morceaux, et j'étais perdu d'ailleurs moi-même dans cet entrelac de fiction. J'appelais parfois ça le bovarisme étendu. C'est, vous savez, cette fictionnalisation de nos vies, cette virtualisation de tout. Et donc j'ai commencé à travailler là-dessus et je finissais ce livre, Vie potentielle, qui raconte des vies fêlées, des gens perdus parmi les fictions de... Et j'ai perdu mon père. Et j'ai relu ce travail et je me suis dit, il manque quelque chose, il manque le lieu d'énonciation. Et c'est comme ça que j'en suis venu au narrateur, Abraham. Abraham, c'est celui qui, au contraire, dans l'histoire biblique, se repose la question de la transmission. À qui laisser ce monde? Et donc il y a la question de l'enfantement, de la transmission. Et quand j'ai pu trouver ce lieu-là, je me suis dit, voilà, j'ai commencé à écrire toutes les exégèses. Donc, pour Thésée, sa vie nouvelle, il y avait de nouveau cette question. Et sans doute que ce labyrinthe des temps, du temps, des histoires du XXe siècle, des guerres, de ce que le pouvoir cause sur les corps, la marque de l'histoire, me semblait ce vaste labyrinthe. J'ai quand même beaucoup travaillé autour de la figure du labyrinthe, et donc ça m'a paru très juste à un moment d'arriver à ce lieu-là.
Le livre s'est longtemps dans sa phase préparatoire, appelé « Le livre des morts », un livre dont le narrateur se perd au milieu des mémoires et des chocs du temps et de l'histoire. Quelle valeur a, pour Camille de Toledo, le mythe de Thésée?
L'histoire de Thésée, dans son archaïsme, dans l'arché, ce qui fonde ce récit, c'est l'histoire d'une royauté cachée, et on le retrouve dans le livre, ce rêve d'Ovède d'être un roi. Mais également, en fait, et c'est une des choses qui me touche le plus dans l'histoire de Thésée, c'est que on doit au Minotaure, et la question du livre de Thésée, sa vie nouvelle, est qui est le Minotaure? On cherche à dévisager sans cesse dans cette enquête qui est-ce qui nous dévore et nous tue. La question du Minotaure, dans le mythe Thésée, c'est une question où les jeunesses payent le prix de l'histoire et de la défaite et de la guerre. La jeunesse, le présent, continue de payer au nom de l'histoire. Ce sont des jeunes corps, jeunes femmes, jeunes hommes, qui sont envoyés dans la bouche du monstre. Et donc j'aime beaucoup cette idée que le labyrinthe est cette représentation de l'histoire qui dévore des jeunes corps et continue d'exiger. Et je trouve fort que Thésée soit celui qui vient mettre fin, en fait, à ce tribut payé à l'histoire, à ce tribut payé au passé. Et je crois que l'histoire de l'Europe se tient beaucoup là. Combien d'années encore faut-il payer pour ce qui a eu lieu, comme disait Paul Celan? Combien d'années encore? Et c'est cet affranchissement du passé qui est le cœur de Thésée. Et puis, évidemment, une chose qui m'avait beaucoup touché enfant, quand ma mère me lisait cette histoire, c'est l'erreur de Thésée. C'est le fait qu'il triomphe, il gagne, il revient victorieux, mais d'abord, il trahit Ariane, donc il y a de l'irréparable. En fait, ça répare, mais ça ne répare pas vraiment. Et puis, il y a surtout le fait qu'il se trompe dans les couleurs des voiles et que son père se suicide. Et là encore, on retrouve cette question-là dans Thésée, sa vie nouvelle, avec le suicide de Talmaï en 39. Qu'est-ce qui a causé la mort? Et j'écris, il a devancé le chagrin. Il a devancé le chagrin. Donc, contrairement à Ulysse, Thésée, c'est une histoire qui finit d'une certaine façon mal. Il y a de l'irréparable. Il y a des actes de réparation et il y a de l'irréparable. Et chez Ulysse, dans l'histoire d'Ulysse, c'est une histoire qui finit, vous savez, sa femme l'attend, son fils l'attend, tout reprend comme avant. En plus, d'un point de vue du genre, la femme a continué grosso modo à tenir la maison. Donc tout ça ne va plus aujourd'hui. Ulysse ne va plus. Mais Thésée me semble plus juste par rapport à notre temps.
Thésée vient chercher et combattre le Minotaure à Berlin, à la source du mal, dans le lieu même où l'extermination systématique des Juifs d'Europe a été décidée. Qu'attendaient Thésée et Camille de Toledo de l'exil à Berlin?
C'est une question très, très profonde, en fait. À commencer par cette ville. Cette ville, parfois on dirait avec les mots de Boris Cyrulnik ou de la psychologie, on dirait que c'est une ville résiliente. C'est une ville qui est comme un sphinx, en fait. Elle se réinvente, elle renaît de ses cendres. C'est aussi ce que j'écris dans le livre. C'est une ville de sutures, de blessures, de cicatrices. Et ce sont sur ces cicatrices que quelque chose a lieu qui est de la vie, en fait. Ça revit. Il y a aussi une chose qui me touche tant dans cette ville, qui est cet entrelac d'urbanité et de nature, cette présence des dents creuses, on dit parfois, ou en français on parle de terrain vague, qui est une notion qui aurait beaucoup plu à Walter Benjamin. Et donc, pour moi, ça a été très compliqué, parce que je pars évidemment de cette expérience de vie ici, et j'ai vraiment eu le sentiment que je m'étais jeté dans la gueule du monstre, en fait. Je pensais fuir le passé, alors que j'ai retrouvé tout le passé et tout l'entièreté du passé du XXe siècle. En même temps, je savais que mon départ était une forme de paradoxe, puisque ma question aussi, et là elle est personnelle toujours, c'est je m'adresse à la fois aux morts et à mes enfants. Et à travers mes morts, je m'adresse à nos morts et à nos enfants, qui est pour moi la seule question de l'adresse. Comment est-ce que l'on vit entre des morts et des vivants? Et pour mes enfants, je me souviens je serais heureux qu'ils grandissent dans cette ville, parce que c'est une ville d'enfance, c'est une ville où ça naît, mais en même temps, ce sera la possibilité pour moi de leur expliquer d'où je viens, et dans le temps. Et je viens du XXe siècle, et eux ne l'ont pas connu, on parle parfois des millennials. Et donc il y a ce geste comme ça de transmission. Cette ville est pour moi à la charnière complète du XXe siècle et du siècle à venir, du XXIe siècle, de la question du retour des arbres, des forêts, de la nature dans nos vies. Et donc voilà, j'étais à cet endroit-là, à cet endroit de la blessure. Écrire au lieu de la blessure, c'est sans doute écrire depuis Berlin. Écrire entre les siècles, pour moi, c'est écrire depuis Berlin. Le être et le boulot, essai sur la tristesse européenne, un de mes livres de 2009, qui n'a hélas pas été traduit en Allemagne, c'est dommage, s'écrivait déjà depuis Berlin, depuis cet est-ouest retrouvé, cette suture impossible. Et puis, il y a une autre dimension, c'est le rapport à la langue. Et ça a été beaucoup plus dur. Voilà, ça a été beaucoup plus dur. Maintenant, ça va, j'ai moins peur de ce que j'appelle le surmoi, le Über-Ich de la langue allemande, qui est un surmoi très, très dur, très âpre, très violent, qui pose d'ailleurs la question du rapport à la règle, qui est d'ailleurs aussi une question très juive du rapport à la loi. Qu'est-ce qu'on a le droit de transgresser dans la langue? Ça a été très dur. Avant de partir, j'avais commencé des études, je voulais retrouver le yiddish. Et quand je dis retrouver, ça n'est pas une langue familiale pour moi, puisque c'est plutôt pour moi le judéo-espagnol, si je m'en réfère au nom de ma grand-mère de Toledo.
De même que Thésée assiste à l'effondrement de ses forces corporelles, De même, Camille de Toledo trace une parallèle entre le destin de son personnage et celui de l'Europe.
Ce que ce livre m'a aidé à comprendre aussi du siècle qu'on a quitté, c'est cette bascule entre une première moitié de siècle qui a coupé, détruit, anéanti des généalogies, fragilisé ce que j'appelle la matière humaine, qui l'a brassée, qui l'a forcée à l'exil, au départ, au désattachement, comme j'écris parfois, qui a donc véritablement fait avec la matière humaine ce que nous faisons ou ce que le capitalisme continue de faire avec tous nos écosystèmes, avec nos milieux, avec toutes les autres formes de vie. C'est l'histoire, dans cette première moitié du XXe siècle, qui l'a fait avec les hommes, les femmes, les enfants. Et c'est vrai, on le sait, la pulsion de vie après la Seconde Guerre mondiale a lancé une grande tentative d'oubli. C'est là où pour moi il y a aussi pardon pour la génération des parents de Thésée. Thésée est quelqu'un qui cherche à tout de même à comprendre. Et c'est ça, je crois d'ailleurs, même si on ne lui a laissé que des ruines, même si on lui a laissé de la colère, des procès inachevés, il ne cède jamais devant cette colère. Il dit « je vais l'exprimer, mais simplement je vais passer outre, je vais essayer d'aller au-delà ». Et cette deuxième moitié du XXe siècle, qui est là presque pilotée par l'oubli, de 1945-48 jusqu'à 1973, puisque c'est la date que je donne, c'est cette grande course en avant pour relancer la vie. Et surtout ce que je dis, et je crois que j'ai trouvé là, il me semble, quelque chose de juste, c'est que toute cette énergie de la reconstruction aura sans doute été une énergie de peur. Et cette peur, c'est quoi? C'est la peur de mourir, c'est la peur d'avoir faim, c'est la peur de perdre ses enfants, c'est la peur des guerres qui ont précédé. Et donc, le grand projet de l'Europe, c'était d'évacuer la peur, évacuer l'histoire, évacuer tout ce qui en fait a fait trembler les généalogies, qu'elles soient juives, qu'elles soient allemandes, qu'elles soient françaises, qu'elles soient d'autres lieux, des colonies qui sont venues se battre sur des terrains européens. En fait, c'est cette grande tentative d'oublier la peur. Et c'est là que je parle de Nathaniel, ce grand industriel qui cherche à nourrir, à nous léguer un monde d'abondance, de progrès, c'est ce que j'appelle aussi cette fiction ou cette légende des Trente Glorieuses. Et nous autres, la génération de Jérôme, de Thésée dans le livre, et la génération qui suit, celle de la fin du XXe siècle et XXIe, nous avons vu revenir toutes les fragilités. Voilà. Nous sommes cernés par toutes les fragilités que l'on a voulu effacer, oublier.
Thésée, sa vie nouvelle, est aussi une enquête que Camille de Toledo fait sur ses propres origines.
Donc oui, je vous disais, Thésée, ça organise des requalifications généalogiques et ça entrelace différents héritages. En fait, je crois que tout le livre, par les prénoms, est écrit exactement à ce qu'est pour moi ce mot Tolède. Tolède, Toledo, c'est cette ville des trois religions. Mais c'est aussi également, Thésée s'écrit à l'endroit où est, disons, structurellement l'Europe, c'est-à-dire, si je reprends, Thésée, c'est un nom de la mythologie grecque, et qui renvoie à ça, Jérôme, c'est un héritage chrétien de traduction, les parents eux-mêmes se marient dans Thésée comme chrétiens, donc effectivement là il y a un camouflage, et il y a ces prénoms juifs, que je fais revenir de temps archaïque. Et j'ajoute qu'il y a aussi ce travail sur le front, dans les lettres de guerre de Nissim, où il y a des fraternisations judéo-arabes, avec les goumiers algériens qui se battent. Et tout ça, sur fond d'un alliage et d'une opposition et d'une histoire de la violence entre la France et l'Allemagne. Donc, je continue toujours ce même chemin. C'est travailler à l'endroit où les mémoires de la douleur, les mémoires de la blessure peuvent se retrouver, se rencontrer. Maintenant, si j'en viens au décalage par rapport à ma vie, j'ai été élevé, vous avez raison de le dire, dans deux formes de secrets, de formes de cachets. On a caché des morts, des suicides, du côté de ma famille française et catholique, et on a caché le judaïsme marane qui était là présent. Mais dans mon empreinte d'enfant, c'est tout le chemin de mon père, en fait, d'interrogation qui a commencé, en fait, dans les dernières années de sa vie, mais très tôt, des souvenirs à Tolède, où on va pour l'anniversaire de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et j'ai 17 ans. Et avant, puisque j'utilise ça dans le livre, ces enfants qui crient à Thésée et Jérôme, « Ah tiens, les Juifs font du vélo !» Et en fait, ça, c'est une matériau biographique. C'était des crachats. On passait, c'était des... Et pour moi, c'était toujours une question, parce qu'on ne parlait jamais de ce que j'appelle le judaïsme errant. Et je crois que c'est un judaïsme errant. Ce judaïsme errant traverse beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences du XXe siècle, parce que ça exigeait que l'on cache son rapport à la foi. Donc vous voyez, c'est un double écho. C'est un écho à ce qui s'est passé en Espagne, il y a très, 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 très longtemps, dans le temps long. Pourquoi ? Parce qu'on demandait la conversion de force ou l'expulsion. Donc il fallait cacher ce que disait son cœur. Je retrouve ma notion d'attachement. Il fallait cacher son attachement à une certaine forme de prière. Et au XXe siècle, il a fallu de nouveau, pour se sauver, pour survivre, se cacher. George Arthur Goldschmidt le dit également très bien. Il fallait se cacher pour survivre. Et ma grand-mère de Toledo, qui a pris le nom Mittal, en se mariant avec un catholique, et elle-même était d'ailleurs entrelacée, elle a pourtant, au temps de la Seconde Guerre mondiale, été requalifiée comme juive, parce que les lois changeaient.
De par sa forme, Thésée, sa vie nouvelle est un livre particulier qui mêle photographie, reproduction de lettres et de documents d'archives et qui affiche une mise en page à géométrie variable.
La forme de Thésée, sa vie nouvelle, voilà, elle s'est trouvé au fil du travail. Peut-être que je commence par le plus frappant, qui est ce montage, comme dans un alliage à la fois montage dans la page, entre les photos, entre les images, entre ce que j'appelle aussi les indices et ce que j'appelle aussi les témoins. On peut lire le livre en prenant les images comme des incarnations, des personnages évoqués. Pour moi, ce sont beaucoup plus des témoins. Je parlais un peu avant du fait qu'en écrivant, je dialoguais beaucoup avec les morts. Je leur posais des questions, j'essayais de voir comment ça répondait en moi, quelle était la vibration que je ressentais quand j'écrivais quelque chose. Si je redonnais des noms, et j'ai redonné des noms, je leur demandais « est-ce que ça te va bien ?» J'ai demandé à ma mère « est-ce que ça te va, Esther ? Est-ce que ça te va ?» Et je l'ai vu sourire en moi. J'ai dit « ça me va bien ». Lorsque j'ai repris cette figure littéraire de Gatsby pour surnommer mon père, j'ai retrouvé la lettre G qui était au commencement de son prénom. Donc il y a un réencodage. Nous réencodons le monde. Et ça, c'est très important parce que c'est ce que l'on fait avec tout. Les scripts, c'est la littérature, la Bible réencode aussi des histoires. Le mythe, ça réencode parfois des histoires plus ou moins réelles qui ont eu lieu ou pas lieu. Donc j'ai demandé des autorisations aux morts. Lorsque j'ai nommé Talmaï, j'ai demandé l'autorisation. Lorsque j'ai nommé Nissim, j'ai demandé des autorisations. Je n'ai eu de cesse de dialoguer parce que je médite parfois 2, 3 heures, 4 heures par jour pour ne pas avoir mal. Et en méditant, on peut faire plein d'opérations. Et donc pour moi, les photos, ce ne sont pas « ceci est Talmaï ». La seule image, et d'ailleurs je crois que le lecteur le sent très bien, c'est « ceci est mon frère ». « Ceci est mon frère » est le point de synchronie dans le livre. Exactement comme le « ceci est mon corps » presque. « Ceci est mon frère », c'est le corps de mon frère. C'est lui, c'est son visage, ce sont ses yeux. Et c'est à cet instant-là que je le retrouve après l'avoir perdu. En double sens du terme « perdre ». Perdre parce qu'il est mort et perdre parce que je l'avais effacé. Et donc avec lui, avec ce visage, je le retrouve et je retrouve mon enfance, c'est-à-dire je retrouve sans doute des capacités de vie. Toutes les autres images sont des images flottantes. ce sont des images errantes qui témoignent, qui sont là pour témoigner, qui sont là dans un dialogue intérieur que j'ai eu avec les morts. Et puis, après, il y a ces voix multiples qui sont la voix de Thésée en italique, le « je », mais aussi la voix de l'arrière-grand-père, qui sont signifiées, qui sont posées dans le livre comme étant des voix divergentes, des voix d'un cœur, comme on parle en opéra, le cœur ou le cœur antique. Le corps de Thésée, c'est un corps écho, c'est un corps crypte, c'est un corps script, c'est un corps mémoire, c'est un corps qui fait média entre la vie et la mort, entre des histoires longues et qui ressurgissent entre des voix multiples. Et donc c'était ma manière de signifier dans la page que tout n'était pas d'un lieu, mais que ce lieu-là, qui est ce corps de Thésée que l'on suit, en fait, est traversé par du multiple, par des voix. Et donc, ça prend cette forme-là.
Thésée, sa vie nouvelle, est paru chez Verdier. Il faisait partie des 4 finalistes du prix Goncourt. C'est Karin Utendorfer qui traduira le livre en allemand pour la maison d'édition Lurter Hand. Avant de nous quitter et de vous dire à bientôt pour notre prochain rendez-vous le 15 février en compagnie de l'écrivaine Anne Weber, avec qui nous parlerons de son livre Annette, qui a été couronné par le prix du livre allemand, nous allons aborder notre rubrique Coup de cœur. Ce mois-ci, c'est Sigrid qui a eu un coup de cœur pour Robert Baubert, un auteur que j'avais eu la chance de découvrir lors de la production de sa pièce radiophonique « Was gibt's Neues vom Krieg », l'adaptation radio de « Quoi de neuf sur la guerre » que Christiane Ohaus avait réalisé pour le Deutschland Radio en 1998.
Mon coup de cœur va à « Par instant, la vie n'est pas sûre » de Robert Baubert, qui est non seulement auteur, mais aussi réalisateur de films documentaires. Son livre est un recueil de lettres, de photographies et de souvenirs de projets qu'il a réalisés avec son ami Pierre Dumayet, décédé en 2011 et qui lui manque cruellement depuis. Il y a quelques années, j'ai pu faire une promenade avec Robert Baubert dans le quartier de Paris où il avait passé son enfance et sa jeunesse. Il m'a parlé des gens qui avaient joué un rôle important dans sa vie et, parmi eux, de l'écrivain trop tôt disparu, Georges Perec. Georges Perec avait réalisé avec Robert Baubert un film sur Ellis Island et l'avait encouragé à écrire son premier roman, Quoi de neuf sur la guerre. Son éditeur, Paul Otchakowski-Laurence, qui est décédé dans un accident en 2018, tient également une place importante dans l'univers de Robert Baubert. Et aussi, bien avant cela, François Truffaut, comme nous le raconte l'auteur, aujourd'hui âgé de 89 ans, dans ce petit extrait d'interview. Sur le tournage du film « Les 400 coups », Robert Baubert devait s'occuper des enfants figurants. Il nous raconte comment.
Un jour, je lis dans le journal, que François Truffaut cherche des enfants pour un film à faire. Alors, je dis, il cherche des enfants. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants. J'adorais monter des spectacles avec eux. On ne sait jamais. Donc, je lui ai envoyé une lettre. Et puis, un jour, le téléphone sonne. C'est Truffaut qui m'appelle. Il me dit, écoutez, venez me dépanner. Il y a 30 gosses que j'ai choisis volontairement très, très dur. Mais on n'arrive pas à tourner parce qu'il n'y a personne pour les tenir. On tourne avec tout le monde, il n'y a pas de problème si je veux tourner une récréation. Mais si je veux faire un plan avec deux enfants, les autres font un tel chahut qu'on ne peut pas tourner. Alors, j'ai dit, écoutez, je vais me faire porter malade, là où je suis. Vous me donnez 24 heures et j'arrive. Alors, je me suis fait porter malade, je suis arrivé. J'avais tellement envie de faire ce film que j'ai vraiment eu la fièvre. Et puis, le lendemain, j'étais sur le plateau de Truffaut, j'avais plus de fièvre, plus rien du tout. Et j'ai organisé des jeux de mime, etc. Enfin, donc, et ça s'est bien passé. À la fin du film, il m'a dit, écoutez, comme... je suis très très content de notre collaboration. Et puisque vous voulez faire du cinéma, pour mon prochain film, je vous prends comme assistant.
Robert Baubert nous parlait de sa rencontre avec François Truffaut. C'était un petit extrait d'un entretien que j'ai réalisé avec lui à Paris en 2001.
Et c'était le coup de cœur de Sigrid, Par instant, la vie n'est pas sûre, de Robert Baubert, aux éditions P-O-L.
Nous voici arrivés à la fin du premier épisode de notre podcast de littérature franco-allemande. Il a été réalisé grâce à la précieuse aide de Jean Chimchak à la technique. Nous espérons que vous aurez passé un agréable moment.
Le 15 février, nous vous ferons partager notre rencontre avec Anne Weber.
Et nous vous présenterons également Franz Fanon, le roman graphique de Frédéric Sirier et Romain Lamy qui vient de paraître aux éditions La Découverte.
D'ici là, nous vous souhaitons de belles lectures. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire à litteramour.com, litteramour avec deux T, un accent aigu et un S, parce que nous aimons au pluriel. C'était Clarisse Cosset
et Sigrid Brinkmann.